Charles Dickens, une histoire d'écolier. Je suis encore trop jeune pour qu'il se soit passé dans ma vie des événements dignes d'être racontés. Je ne pense pas que cela intéresse à personne de savoir que le révérend est une véritable scie, sa digne épouse l'animal le plus rapace de toute la création. Il serait épique de raconter les innombrables carottes qu'elle tire aux parents, principalement sur le chapitre de la médecine et des cheveux à couper. Sur la note de semaine d'un de nos camarades, n'avait-on pas compté 2 pilules, 12 sous? 6 sous, c'eût été déjà joli, mais 12 sous pour 2 pilules qu'il n'avait pas prises, car il les avait fait habilement disparaître dans la manche de sa veste. Quant au bœuf, c'est une horreur. Ça ne peut pas être du bœuf. Non, du vrai bœuf, il n'y a pas que des nerfs. On peut mâcher du vrai bœuf, et puis enfin, le vrai bœuf a du jus. Et on n'en voit jamais une goutte dans celui qu'on nous sert. Un autre de nos camarades, qui était allé se faire soigner dans sa famille, a entendu le médecin déclarer que sa maladie n'avait pas d'autre cause que la mauvaise bière. Parbleu, je le crois. Quelle bière! Quoi qu'il en soit, le bœuf et même la bière n'ont rien à voir avec notre camarade, ce vieux Cheeseman, dont je veux vous raconter l'histoire, ce qui vous intéressera peut-être plus que de savoir comment, par avarice et par cupidité, les maîtres de pension minent les constitutions des jeunes générations. Un exemple. La croûte de pâté, croyez-vous qu'elle soit le moins du monde feuilletée? C'est lourd, comme du plomb fondu. Et on s'étonne après cela que les élèves aient des cauchemars et qu'ils réveillent leurs camarades par leurs cris. Cela n'a rien de surprenant. Cheeseman, une nuit, dans un cauchemar, s'est levé, a mis son chapeau par-dessus son bonnet de nuit et tenant d'une main une canne à pêche et de l'autre une raquette de cricket, il est descendu au parloir où, naturellement, on l'a pris pour un revenant. Croyez-vous qu'il eût jamais fait cela si ses repas eussent été sains et légers? Non. Quand nous serons tous somnambules et que nous passerons la nuit à nous promener, peut-être alors sera-t-on content. Old Cheeseman, comme on disait toujours, n'était pas alors second maître de latin, il était simple élève. Entré à l'école tout jeune, il se souvenait avoir été amené en chaise de poste par une vieille femme qui prisait, qui était toujours de mauvaise humeur et qui le grondait beaucoup. Jamais il ne sortait pendant les vacances. Son compte, sur lequel il n'y avait jamais de leçons extra, était payé régulièrement à la banque. Par an, on lui allouait 2 vêtements de drap marron, et je le vois encore chaussé de bottines toujours beaucoup trop grandes pour lui. Pendant les vacances de la Saint-Jean, les camarades qui demeuraient dans les environs revenaient quelquefois et grimpaient sur les arbres qui entouraient la cour de récréation, exprès, pour voir le pauvre vieux Cheeseman qui lisait là, tout seul. Mais tout cela n'empêchait pas le brave garçon d'être aussi gai, aussi doux qu'une bonne tasse de thé sucré. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'une bonne tasse de thé sucré, ce n'est pas doux. Quant au coup de sifflet, qui était le signal convenu, il relevait la tête et leur disait bonjour en souriant. À leur question, toujours la même,
« Eh bien, mon vieux, qu'avez-vous eu à dîner ?»
Il répondait invariablement,
« Du mouton bouilli. » Ne vous trouvez-vous pas bien seul, Old Cheeseman ?
Oui, quelquefois, c'est un peu triste.
Alors eux sautaient à terre et s'en allaient en criant
« Allons, adieu, Old Cheeseman !»
Croyait-on possible de ne donner tous les jours à un être humain que du mouton bouilli? Eh bien, c'était pourtant le système, tout le temps que duraient les vacances, excepté pendant les jours où, sous prétexte de réjouissance, on faisait un pudding au riz et on économisait le boucher. Pauvre vieux Cheeseman. Si encore les vacances ne lui avaient pas apporté d'autres ennuis que sa solitude. Mais c'était quand les camarades commençaient à rentrer, et à rentrer de très mauvaise grâce, qu'on lui en faisait voir de dur. Lui, tout heureux de revoir ses amis, s'attristait de rencontrer tant de froideur chez eux. Je me rappelle même qu'un jour, l'un de nous le repoussa si violemment qu'il alla heurter contre le mur et se mit la figure en sang. Et pourtant, il était très aimé. Une fois, on fit une souscription en sa faveur et comme les vacances approchaient pour lui redonner courage, on lui offrit 2 petites souris blanches, un lapin, un pigeon et un petit chien. Ce fut pour Old Cheeseman l'occasion de verser beaucoup de larmes. D'abord des larmes de reconnaissance, ensuite des larmes de désespoir, ces animaux ayant fini par se dévorer entre eux. Ai-je besoin de dire que ce nom de Cheeseman, qui veut dire « fromage », était l'occasion d'une foule de plaisanteries charmantes. On l'appelait couramment Gruyère, Brie,
Camembert. Jamais je ne l'ai vu se fâcher. On l'appelait toujours aussi le vieux Cheeseman, Old Cheeseman. Et je ne sais pas pourquoi, car il n'était pas vieux au point de vue des années. Enfin, toujours est-il que dès le premier jour, on l'avait appelé Old Cheeseman. Enfin, Old Cheeseman fut nommé second professeur de latin. Un matin, au commencement d'un trimestre, on le présenta comme tel à l'école en l'appelant Monsieur Cheeseman. Alors, sans transition, nos camarades s'accordèrent tous pour dire qu'Old Cheeseman avait passé à l'ennemi, qu'il s'était vendu, que c'était un traître, un déserteur. On n'admettait pas la moindre excuse, pas même le modeste prix auquel il s'était vendu. 2 livres 10 par trimestre, et son blanchissage, disait-on. À cette occasion, on convoqua une grande assemblée, et il fut décidé que l'on ne pouvait tenir compte que des motifs intéressés qui avaient déterminé la conduite d'Old Cheeseman. Il avait vendu ses frères. Cette superbe expression avait été empruntée à la grande scène entre Brutus et Cassius. Donc, après avoir décrété qu'Old Cheeseman était un infâme traître, qui ne s'était tenu au courant des secrets des camarades que pour les vendre et se faire bien venir, on invita tous les gens courageux à se faire recevoir d'une société qui se formait contre lui. Cette société avait pour président le premier élève de notre classe, un nommé Bob Carter, dont le père, riche à millions, disait-on, habitait les Indes orientales. Ce Bob avait une grande autorité sur tous ses camarades. Il avait composé une chanson qui commençait ainsi. Qui donc entendait-on parler à peine, tant il était doux et mielleux, mais au fond, qui n'est qu'un cafard honteux, Old Cheeseman ? Et continuait sur le même ton pendant une dizaine de vers. Il ne manquait jamais, chaque matin, de l'aller chanter tout contre le pupitre du nouveau pion. Il avait dressé un des petits, un effronté moutard aux joues roses, qui ne doutait de rien, à aller lui réciter un matin sa grammaire latine de la manière suivante. Nominativus pronominum Old Cheeseman, raro exprimitur, n'avait-on jamais été soupçonné, nisi distinctionis, d'être un espion, aut emphasis gratia, avant d'être pris sur le fait, ut, par exemple, vos damnastis, quand il a trahi les élèves, quasi, pour, dicat, c'est comme s'il avait dit, preterea, nemo, je suis un Judas. Tout cela produisait une grande impression sur Old Cheeseman. Il n'avait jamais eu beaucoup de cheveux, mais le peu qu'il en avait s'éclaircissait de jour en jour. Il pâlissait, se voûtait. Le soir, parfois, assis à son pupitre devant sa chandelle qu'il oubliait de moucher, on le voyait le visage dans ses mains, sanglotant. Mais personne ne le plaignait. Quand même, on s'y serait senti disposé, car le président disait que c'était la conscience d'Old Cheeseman qui le bourrelait. Pauvre Old Cheeseman. Quelle vie misérable était la sienne. D'un côté, le révérend, qui n'avait même pas l'air de penser qu'il existât, et sa femme, qui s'était faite une règle de ne jamais s'occuper des professeurs. De l'autre, les camarades, qui le faisaient souffrir sans trêve ni merci. Et cependant, jamais il n'accusa personne, jamais il ne se plaignit. Ce dont on ne lui savait d'ailleurs aucun gré, le président ayant déclaré que s'il ne parlait pas, c'était par lâcheté. Le pauvre Cheeseman n'avait qu'une amie en ce monde, et une amie qui n'était hélas pas en situation de l'aider, de le secourir, puisque ce n'était que Jane, la petite lingère qui prenait soin des affaires des élèves. Elle était entrée d'abord dans la maison comme apprentie. On disait même qu'elle avait été recueillie par charité. Mais je n'en sais rien. Lorsque son temps d'apprentissage avait été terminé, elle était restée à l'année. Elle avait tant d'ordre, tant de soins qu'avec des appointements plus que modestes, elle était arrivée à faire quelques petites économies. C'était une charmante jeune femme. Peut-être n'était-elle pas précisément jolie, mais sa physionomie honnête, ouverte et gaie lui avait gagné le cœur de tous les élèves. Elle était si soigneuse, si proprette, et si complaisante, et si bonne. Si un élève était tourmenté et inquiet de la santé de sa mère, c'était toujours à Jane qu'il allait montrer la lettre. Elle causait avec lui et le consolait. Jane était l'amie d'Old Cheeseman, et plus la ligne formée contre lui était puissante, plus Jane se faisait son champion. De la fenêtre de la lingerie, quand il passait, elle lui faisait un petit signe de tête amicale qui lui donnait du courage pour toute la journée. C'était aussi pour l'aider, pour le soutenir, qu'en revenant du verger et du potager qui, comme vous le pensez bien, étaient toujours fermés à clé, elle ne manquait jamais de passer par la cour de récréation, bien qu'elle eût pu prendre un autre chemin. Et le regard qu'elle lui lançait disait clairement « Allons, ne perdez pas courage. » Jane avait soin de sa petite chambre, qu'elle rangeait, pendant qu'il préparait sa classe, et elle faisait en sorte qu'au dîner, il eut de temps en temps un bon morceau, ce qui excitait l'indignation des camarades. Cet état de choses se prolongeant, la Ligue résolut, après bien des pourparlers et des débats, que Jane serait sommée de jeter Cheeseman par-dessus bord. Si elle refusait, elle serait elle-même mise à l'index. Une députation ayant à sa tête le président fut chargée d'aller trouver Jane et de l'informer de la décision pénible que la Ligue s'était vue forcée de prendre. Jane était très aimée et très respectée. N'avait-elle pas été un jour jusqu'à retenir le révérend dans son cabinet sous un faux prétexte pour éviter une grosse punition à un des élèves, et cela par pure bonté? Aussi est-ce la tête très basse que les députés montèrent chez elle. Le président l'informa de la résolution prise. Sur quoi, Jane devint très rouge, fondit en larmes, et avec une véhémence qui n'était pas du tout dans sa nature, elle déclara au président et à la députation qu'il n'était qu'un tas de méchants garnements, sur quoi elle les mit à la porte. En conséquence, on consigna sur les registres de la société, qui étaient chiffrés de peur des indiscrétions, que toute espèce de communication avec Jane était interdite, et le président profita de cette occasion pour faire ressortir une fois de plus l'esprit d'intrigue d'Old Cheeseman. Quoi qu'on fît, Jane lui demeura fidèle et résolument se posa comme sa seule amie. Cette manière d'être de Jane fut très sensible à la Ligue. Comme ils perdaient beaucoup en la perdant, ils en voulurent d'autant plus à Cheeseman et le traitèrent plus mal que jamais. Enfin, un matin, on trouva sa chaise vide. On monta à sa chambre. Personne. Aussitôt le bruit se répandit parmi les camarades, que Cheeseman, à bout de force, ne pouvant plus supporter la vie qu'on lui faisait, s'était levé de bonne heure et était allé se noyer. Les airs mystérieux que prirent les autres maîtres à déjeuner, le fait certain que Cheeseman n'était plus attendu, confirmèrent la Ligue dans ce sentiment. On commença à se demander si le président ne courait pas la chance d'être pendu, au moins condamné aux travaux forcés à perpétuité, et il faut avouer que le visage du président témoignait d'une grande anxiété. Cependant, il déclara que la justice de son pays trouverait à qui parler. Il comptait demander à ses juges si eux-mêmes, la main sur la conscience, approuvaient les traîtres et les encourageaient. Quelques-uns des membres de la Ligue l'engageaient à prendre la fuite et à ne s'arrêter que lorsqu'il aurait trouvé une forêt où il put échanger ses habits contre ceux d'un bûcheron et se teindre le visage avec des mûres. La majorité pensait que s'il tenait tête à l'orage, son père, qui était aux Indes et qui était riche à millions, parviendrait à le sauver. Tous les cœurs battaient dans toutes les poitrines lorsque le révérend entra et, se saisissant d'une règle qu'il tenait comme un bâton de maréchal, se disposa à faire une annonce. L'émotion des élèves n'eut d'égal que leur étonnement lorsqu'il raconta qu'Old Cheeseman, notre bien cher ami, notre compagnon fidèle au travers des plaines fertiles du savoir, c'est ainsi que s'exprima le révérend, venait d'hériter d'une fortune considérable. Son grand-père, qui avait déshérité sa fille et l'avait fait mourir de chagrin, celle-ci ayant fait un mariage qui lui avait déplu, qui, même après la mort de son gendre, n'avait jamais voulu voir le petit orphelin dont il se contentait de payer la pension, ce grand-père venait de mourir, et je me permets de dire que c'est bien fait. Et la grande fortune, puisqu'il n'y avait pas de testament, revenait tout d'un coup, et pour toujours, à Old Cheeseman. Notre bien cher ami et compagnon fidèle au travers des plaines fertiles du savoir, ajouta le professeur au milieu de fortes citations, reviendra encore une fois au milieu de nous, d'aujourd'hui en 15, car il désire faire ses adieux, plus spécialement à ses camarades et aux élèves. En disant ces derniers mots, le proviseur jeta autour de lui un regard sévère, puis il sortit solennellement. Je vous laisse à penser la consternation. La fameuse Ligue était en ébullition. C'était à qui n'en avait jamais fait partie. Quelques-uns voulaient donner leur démission. Le président était d'avis de tenir tête et surtout de rester unis afin de sortir vainqueur de la lutte ou au moins de tomber tous ensemble. Il ajouta qu'il resterait toujours au premier rang et qu'il faudrait lui passer sur le corps pour arriver à un des membres. Cette déclaration, faite pour rendre courage aux alliés, ne fit pas grand effet. Le président ajouta qu'il allait étudier la situation et qu'il donnerait son avis sur la conduite à tenir dans quelques jours. On attendit avec impatience le résultat des réflexions du président. On le savait au courant de bien des choses de ce monde, son père occupant une grande situation aux Indes. Après de longues et profondes méditations, après avoir tracé bien des plans de bataille sur son ardoise, le président réunit enfin les membres de l'Alliance et leur exposa la situation. Pour lui, c'était clair, le jour où Old Cheeseman reparaîtrait, son premier acte serait de mettre la Ligue en accusation et de faire fouetter tous ses membres à tour de rôle. Après avoir joui de l'humiliation de ses ennemis et de leur torture, et s'être réjoui des cris que leur arracheraient leurs souffrances, il était plus que probable que, sous prétexte d'avoir un entretien confidentiel, il attirerait le proviseur dans une pièce à part, peut-être par exemple dans le parloir des parents, où sont les deux grandes sphères dont on ne se sert jamais. Là, il lui reprocherait toutes les injustices, tous les mauvais traitements dont il avait été la victime. Alors, sur un signe, un boxeur de profession, qui jusque-là serait resté caché dans le corridor, paraîtrait. Il s'élancerait sur le proviseur, auquel il ne ferait grâce que quand il le verrait sans connaissance. Old Cheeseman offrirait sans doute à Jane un cadeau dans les 5 à 10 livres, et ensuite quitterait l'établissement en triomphateur. Le président ajouta que, quant à la scène du parloir et à ce qui concernait Jane, il n'avait pas d'objection à faire, mais, pour ce qui regardait la Ligue, il conseillait une résistance à mort. Dans ce but, il recommanda d'emplir chaque pupitre de pierre. Le premier mot de reproche d'Old Cheeseman serait le signal d'après lequel on devrait le lapider. Cet avis énergique releva un peu le courage de la Ligue et fut adopté à l'unanimité. On éleva dans la cour de récréation un poteau, à peu près de la hauteur de Cheeseman, qui servait de cible et sur lequel tous les élèves s'exercèrent jusqu'à ce qu'il fût criblé de marques. Le grand jour vint pourtant. On fit l'appel et chaque élève prit sa place en tremblant. La question de savoir comment viendrait Cheeseman avait été vivement discutée. L'opinion générale, c'est qu'il apparaîtrait sur une sorte de char, traîné par 4 chevaux, avec 2 hommes en livrée par devant et le boxeur de profession déguisé par derrière. Aussi, chacun tendait les oreilles pour entendre le roulement de la voiture. Mais ce fut en vain, car Old Cheeseman arriva à pied et entra à l'école sans aucune préparation, à peu près comme il en avait l'habitude. Il était seulement en grand deuil. « Messieurs, » dit le proviseur en le présentant, « notre bien cher ami et fidèle compagnon, au travers des plaines fertiles du savoir, désire vous adresser quelques paroles. Messieurs, veuillez leur prêter attention. » Chaque élève introduisit la main dans son pupitre et regarda le président. Le président était tout prêt et visait Cheeseman dans les yeux. Alors Cheeseman, se dirigeant vers son vieux pupitre et regardant tout autour de lui avec un étrange sourire et des yeux brillants comme remplis de larmes, commença d'une voix douce et un peu tremblante. « Mes chers compagnons, mes vieux amis. » Toutes les mains sortirent des pupitres et le président tout à coup se mit à pleurer. « Mes chers compagnons, mes vieux amis, » continua Old Cheeseman, vous avez appris la bonne fortune qui m'arrive. J'ai passé tant d'années sous ce toit, je pourrais presque dire ma vie entière, que j'espère que vous vous en êtes réjouis à cause de moi. Quant à moi, ma joie ne serait pas complète si je ne la partageais pas avec vous. S'il y a jamais eu quelque malentendu entre nous, je vous en prie, mes chers amis, pardonnons-nous mutuellement et oublions. Je me sens pour vous une grande tendresse, et je suis sûr que vous me la rendez. J'ai besoin aujourd'hui que mon cœur déborde de reconnaissance, de serrer la main à chacun de vous. C'est pour cela que je suis revenu. Le voulez-vous, mes chers amis ? Lorsqu'on vit Old Cheeseman s'avancer vers le président, qui était le premier sur les rangs, et lui mettre affectueusement la main gauche sur l'épaule tandis qu'il lui tendait la main droite, et quand le président, d'une voix étranglée par les larmes, s'écria « Vraiment, je ne le mérite pas, monsieur, sur mon honneur. Je ne le mérite pas. » Ce fut une explosion générale. toute l'école fondit en larmes. Chaque élève répétait, comme le président, qu'il ne méritait pas cette poignée de main. Mais Old Cheeseman, sans prendre garde, faisait le tour gaiement, en terminant par les professeurs et le proviseur. Tout à coup, un des plus petits, un petit scélérat qui était souvent aux arrêts, s'écria d'une voix perçante.
« Bonne chance, Old Cheeseman ! Ouais !»
Le proviseur lui lança un regard foudroyant. « Veuillez dire, Monsieur Cheeseman, Monsieur !» Mais Old Cheeseman ayant assuré qu'il aimait beaucoup mieux son ancien nom que le nouveau, tous les élèves répétèrent le cri. Et pendant quelques instants, ce fut un tel tapage avec les mains et avec les pieds, de tels hurlements que c'était à devenir fou. Après cela, il y eut au réfectoire un magnifique repas. Poulet, langue, confiture, fruits, compote, vin chaud, temple de nougat, friandises, etc. L'ordre était d'en manger le plus possible et d'en fourrer plein ses poches, le tout au frais d'Old Cheeseman. Ensuite vinrent les discours, puis le congé, et les jeux de toutes espèces. Promenades à âne, en poney, dîner pour les professeurs aux sept cloches, estimé à 20 livres par tête, plus un congé annuel et une fête anniversaire, un autre congé pour la naissance d'Old Cheeseman. Tout cela arraché au proviseur devant tous les élèves assemblés, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de revenir là-dessus, le tout aux frais d'Old Cheeseman. L'histoire n'est pas finie. Il faut encore que je raconte comment le lendemain, quand la Ligue voulut aller faire la paix avec Jane, on la trouva partie. Comment partie ? Partie pour toujours ? Demandaient nos amis, la mine très désappointée. Mais certainement. Et ce fut tout ce qu'ils purent obtenir. Personne dans la maison n'en voulait dire davantage. Enfin, le président résolut de demander au proviseur si réellement Jane était partie. Le proviseur, qui est l'heureux père d'une fille qui a un nez retroussé et très rouge, répondit sévèrement. « Oui, monsieur, Miss Pitt est partie. » Quelle drôle d'idée d'appeler Jane, Miss Pitt. Les commentaires allaient leur train. Les uns disaient qu'elle avait été chassée pour avoir pris de l'argent à Old Cheeseman. D'autres, au contraire, qu'elle était entrée à son service, à 10 pounds par an. Mais tout cela n'était que des suppositions. La seule chose certaine, c'est qu'elle était partie. 2 ou 3 mois plus tard, une voiture s'arrêta un jour le long des palissades de la plaine des Cricket. Le monsieur et la dame qui étaient dans cette voiture restèrent là longtemps à nous regarder jouer. On n'y faisait pas grande attention, quand le même petit bonhomme qui avait provoqué l'ovation à Cheeseman quitta contre toutes les règles le coin où il était en retenue et s'écria
« C'est Jane !»
Les deux camps abandonnèrent le jeu d'un commun accord et se précipitèrent vers la voiture. C'était bien Jane, et avec quel chapeau! Jane qui, le croiriez-vous, avait épousé Old Cheeseman. Ils revinrent souvent ainsi aux heures de récréation. On les voyait accoudés au mur, là où il est le plus bas et où il rejoint la route. Un jour, en entendant la voiture, on arrêta les jeux et on s'élança sur le mur. « Après tout, dit la dame en riant, « vous ne m'avez jamais expulsé !» Et elle donnait des poignées de main de tous côtés. « Y avez-vous tout à fait renoncé ?»«
Oui, oui »
criait-on de tous côtés. Je ne comprenais pas très bien alors ce que cela voulait dire, et à quoi on avait renoncé. Mais maintenant je comprends. La douce physionomie de cette jeune femme me plaisait. J'aimais ses manières, et je ne pouvais m'empêcher de la regarder, appuyée sur son mari, tandis que les camarades se groupaient joyeusement autour d'eux. Ils me remarquèrent bientôt comme nouveau, ce qui m'encouragea à grimper sur le mur et à leur serrer la main comme les autres.
« Voilà les vacances qui approchent, » dit Old Cheeseman. « Dans 15 jours, y a-t-il quelqu'un qui reste ?»
Plusieurs doigts s'étendirent vers moi et plusieurs voix s'écrièrent.
« Lui, il reste !»
C'était une année où tous les miens étaient trop loin pour que je puisse aller les rejoindre. J'en avais bien du chagrin, et je puis l'avouer. « Maintenant. »«
Ah !» s'écria Old Cheeseman. « C'est que c'est terriblement triste de rester ici pendant les vacances. Il vaut bien mieux qu'ils viennent chez nous. »
C'est ainsi que j'allais chez eux, dans leur jolie maison, où je fus aussi heureux que possible. À la bonne heure, voilà des gens qui savent comment traiter des garçons. Quand ils emmènent un garçon au théâtre, par exemple, eh bien, ils l'y mènent bien. On n'arrive pas après que c'est commencé. Et on ne s'en va pas avant que ce soit fini. Ah. Je vous réponds qu'ils savent élever un garçon. Regardez le leur. Il est encore tout petit, mais sapristi, c'est un fameux petit bonhomme. Ce que j'aime le plus après Madame Cheeseman et Old Cheeseman, c'est le petit Cheeseman. Je vous ai dit tout ce que je savais sur Old Cheeseman. Mon histoire est finie. Et j'ai peur que vous ne la trouviez pas bien intéressante.